Et la pousse aussi, n'est-ce pas? Hein? Et qui se rappelle de quoi j'ai parlé la semaine dernière? Ah là là, ah ouais. Caleb. Hein? Ce matin, je vais vous parler du frère à Caleb. C'est pas un nom que vous entendez très souvent. Othniel. Donc, ouvrez vos Bibles dans Josué, chapitre 15. Les versets 16 à 19. Voilà, il y a Caleb qui parle, il dit, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille. Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu, ma fille ?» Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Voilà une belle histoire qui nous montre l'audace et les actions de Othniel, hein, pour gagner la main d'Aksa. Hein. On fait beaucoup de choses pour gagner la main de notre femme, n'est-ce pas, hein? Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé, comme Jacob. Hein, il a travaillé des années pour gagner sa femme. Et lui, il a fait tout ça, c'est pour gagner la fille de Caleb, qui aussi c'était sa nièce. Mais à cette époque-là, on s'est marié en famille. Hein, il ne faut pas voir autre chose. Hein. Et voilà, Caleb, il avait promis... Il y avait une ville à gagner, c'est la ville de Débir. Il a dit, le premier qui l'escalade la muraille, qui gagne la ville, je lui donne ma fille, Aksa. Othniel, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'en est emparé et Caleb, il lui a donné sa fille en mariage. Vous me direz, mais... Qu'elle nous apprend cette histoire, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Beaucoup de choses. Et aussi, c'est ce que je vous dis toujours, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, posez-vous la question, demandez-vous vous-même, où es-tu Jésus? Un peu comme le Belge qui chante, hein? Où es-tu papa? Je ne m'en souviens plus son nom, hein? Hein, les jeunes les connaissent mieux que moi. Hein. Hein. Voilà, on doit se poser les questions. Où es-tu Jésus? Lorsque on lit, on dit, où es-tu Jésus? Ici, on ne trouve pas Jésus, mais on doit se poser la question. Révèle-toi, Seigneur. Je veux connaître tout de toi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cet épisode? La seule que nous devons avoir dans notre cœur, c'est que toute parole est inspirée de Dieu. Donc si cette parole-là, si cet événement il est là, c'est qu'il a quelque chose à nous enseigner. Et Paul il nous a dit que les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, ils ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, cherchons à retirer des enseignements. Alors, premièrement, l'héros mentionné, l'héros c'est Othniel. Et Othniel, un peu comme Caleb la semaine dernière, hein, vous vous rappelez comment, qu'est-ce que ça voulait dire le nom de Caleb? Il faut que je vous reprêche le message? Hein? Cœur non partagé. Cœur droit. Othniel, ça veut dire, ça signifie les lions des dieux. Donc déjà, on peut voir Jésus là-dedans. Où es-tu, Jésus? Othniel, les héros. Hein? Othniel méritait ce nom. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la volonté de Dieu. Il a accompli une œuvre. Et il a reçu la force pour gagner, pour escalader cette muraille et gagner la ville des Débir. C'était son nom, c'était le lion des dieux. Où est-ce qu'il est Jésus? Ben, Jésus, il est comme Othniel. Jésus, il est le lion des Judas. Le lion des dieux, qu'il a été envoyé hein, en Israël hein, comme libérateur de son peuple. Vous voyez la corrélation avec Othniel. Il a été le libérateur, ce lion de Juda, et il a recherché la force. De qui peut venir la force pour combattre, pour gagner? Il ne peut venir que de Dieu. Et Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Jésus, il est Dieu lui-même. Les héros ici, Othniel, c'est Jésus. Vers qui est-ce que vous tournez vos yeux? Vers Jésus ou vers les choses du monde? C'est ça qui compte. Et Othniel, c'était un héros qui a utilisé et a été utilisé par Dieu. Car dans Juges, chapitre 3, verset 9, Dieu il l'a suscité en tant que juge pour délivrer son peuple, Israël, de la main du roi de la Mésopotamie. Donc c'était quelqu'un qui avait confiance dans le Seigneur, qui accomplissait la volonté de Dieu et le Seigneur il lui avait donné la force. Et il nous est dit dans Juges 16, d'où lui vient cette grande force? Ça vient de Samson. D'où est-ce qu'il lui vient cette grande force? Mais du Seigneur. Mais lorsqu'il a abandonné le Seigneur, je vais me délivrer comme d'habitude des Philistins. Il n'avait plus la force du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Et lorsque nous tombons dans le péché, Dieu, il n'est pas avec nous. Dieu ne nous dirige pas. Et il y a aussi dans Gédéon, lorsqu'il devait les délivrer le peuple des Madianites, il a dit, mais je viens d'une tribu toute petite, qui suis-je pour ça? Et Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayons crainte de rien, car Jésus, il est en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Voilà les héros. Et il nous montre l'héros Othniel, il nous montre les caractères de Jésus-Christ. Force de Dieu, volonté de Dieu, tout soumis à la volonté de Dieu. Sur la croix, il aurait pu descendre. Et toi, descends, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il aurait pu descendre. Qu'est-ce que c'est qui a retenu Jésus de descendre? Pas les clous, hein, mais l'amour de Dieu. Car il est mort pour nous. Voilà, Othniel, l'héros, le caractère de Jésus-Christ. Et ça doit être notre caractère. Nous sommes là pour escalader des murailles que notre ennemi il a plantées devant nous, des obstacles. Il y a un cantique qui dit « Tout obstacle sera balayé si nous faisons confiance à Dieu ». Voilà où est-ce qu'il est Jésus. Versets 16 et 17, regardez ce qu'il dit toujours. On vient de le lire, mais relisons-le. Caleb, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui la battra et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Ici, on voit la tâche accomplie des Othniel. Et on voit aussi l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ. Hein? La mission d'Othniel, il consistait à gagner cette ville et à la prendre. Et à la prendre. Et la prise de Débir, sûrement, il lui a coûté beaucoup de peines, beaucoup de souffrances, parce qu'il y avait les ennemis. Il fallait escalader, gagner. Et vous savez, Jésus-Christ, il a autant souffert pour nous délivrer de nos péchés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette forteresse qui était occupée par Satan. Car Satan, c'était le prince de ce monde. Mais Jésus, il est venu et il a pris cette forteresse. Comme je dis ce matin en étudiant cette Satan, hein, nous devons vivre pas de notre victoire, mais parce que nous sommes victorieux. Et cette victoire, elle ne vient pas de nous, mais c'est Jésus-Christ qui l'a pris sous la croix. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, on regarde une personne, hein? On doit chercher Jésus. Parce que Jésus, vous ouvrez la Bible, et il y a Jésus. Il y a Jésus. Ne cherchez pas autre chose. Jésus, il est là. Et il est montré ici. L'œuvre de Jésus-Christ consista à vaincre cet ennemi qui a amené tant de peines dans ce monde. Comme Jésus, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il a vu les gens qui pleuraient. Et alors, il a pleuré lui aussi. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce qu'il a vu les dégâts qui a causé la mort. Lorsque quelqu'un meurt, il y a de la tristesse. Mais pourquoi est-ce qu'on meurt? On meurt parce qu'on a péché. À cause du péché. Et c'est ça qu'il lui avait dit. Dieu, les jours que tu en mangeras, tu mourras certainement. On est mort physiquement, mais aussi spirituellement par rapport à Dieu. Et Jésus, il a pleuré, et il a vaincu, et il a pris. Parce qu'il nous est dit dans Colossiens qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Tous, ils se sont pliés. Et nous a dit aussi que le jour où Jésus va intervenir ici-bas, sur cette terre, tout genou va fléchir devant lui. Et parce qu'il va les obliger. Il va les obliger. Mais ne croyez-vous pas que c'est mieux le faire volontairement? Voilà pourquoi il est venu nous prêcher cette bonne nouvelle. Que nous étions dans la perdition. Et que maintenant, nous pouvons être libres. Pas parce que nous sommes beaux ou nous avons fait des grandes choses, mais parce que Jésus-Christ a agi. Et il a pris. Il a pris cette domination, ces autorités qui régnaient sur chacun de nous. Vous êtes conscient qu'avant que vous veniez au Seigneur Jésus, vous étiez sous l'esclavage de Satan. Mais avec Jésus, nous avons été délivrés, lavés, purifiés. Et nous sommes vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs. Comme il a dit les frères, qui nous délivrera? Qui? Qui nous accusera? Personne. Parce que tout est de notre côté. Othniel, lui, il a accompli sa tâche. Et Jésus, il a accompli sa tâche, son œuvre. C'est terminé. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous n'avons plus rien à faire. Pourquoi? Car tout a été fait. Lorsque Dieu il a ramené le peuple d'Israël pour reconstruire les temples après 70 ans d'esclavage, les rois, il les a envoyés et avec une lettre en leur disant « Vous leur donnerez tout ce dont ils ont besoin ». car c'est moi qui paye. Et dans le salut, c'est exactement la même chose. Nous n'avons rien à faire que de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il est venu, il a accompli et il a pris possession. Malgré qu'on ne le voit pas, Jésus, Dieu, il règne aujourd'hui. Car la Bible nous dit que rien ne bouge sans la permission de Dieu. Voilà pourquoi Othniel nous montre l'œuvre de Jésus-Christ accomplie. Et Jésus, on me disait les frères, il est monté au ciel, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Il est venu vers nous, pauvres pécheurs, il a accompli sa tâche, et maintenant il attend que nous, les pécheurs, nous puissions aller vers lui. Et lorsqu'un chrétien, il meurt, Jésus, il est assis parce qu'il est le roi, mais lorsqu'un chrétien, il meurt, il s'élève. Parce qu'il a donné sa vie pour ce chrétien. Il nous a tellement aimés. Voilà pourquoi l'œuvre de Jésus-Christ et la croix restent debout. Personne ne pourra la faire chuter. Beaucoup ils se moquent de la croix, mais la croix, c'est le signe de notre libération. C'est le signe que Jésus-Christ n'est pas mort, il n'est plus mort, mais il est vivant, il est au ciel. Voilà là. Une autre caractéristique, c'est la récompense offerte à Othniel. Et c'était la récompense, c'est la fille de Caleb, au verset 16. Il lui donna sa fille parce qu'il a gagné. La bataille que Othniel il a fait, c'est pour gagner une épouse. Alors vous me direz, mais en quoi on voit Jésus là? Mais Jésus, en mourant sous la croix, il a créé une épouse. Je bâtirai mon église. C'est nous l'épouse de Jésus-Christ. Et il s'est battu pour cela. Et il a gagné une épouse. Et il a fait la tâche de conquérir. Le pays avait été ordonné par Dieu. Et la tâche de conquérir cette ville, il avait été donné par Caleb. Mais à Jésus, Dieu, il lui a donné la tâche de conquérir le monde. Il est venu, il a conquis le monde. Et il a dit aux disciples, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-leur. Il a été partout dans les nations, et tous ceux qui font confiance à Jésus-Christ, qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils se tournent vers lui avec confiance, ils font partie du corps de Christ, son épouse. Nous sommes là. Mais lorsque nous serons réunis avec le Seigneur, dans les cieux, il y aura un très grand banquet. Et nous serons à la table d'honneur. Ce n'est pas moi qui le dis, vous lisez l'Apocalypse, et il est là. Où il y aura des mets succulents, où il y aura tout. Nous serons assis à côté de notre époux, Jésus-Christ. Bien sûr, il y aura les amis de l'époux. Qui sont les amis de l'époux, mais c'est le peuple d'Israël, il va être là. Mais nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et pour l'époux, qui c'est qui compte le plus? Les amis ou l'épouse? C'est l'épouse. Et en plus, Jésus, il a aimé, il a donné sa vie. Voilà pourquoi il nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Oui, nous devons donner notre vie pour nos femmes, comme Christ il a aimé. Mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans ce monde pourri, là, dans lequel beaucoup de chrétiens ils s'y plaisent. Vous savez qu'il y a 4 mariages sur 5 qui vont se tourner avec le divorce. Comme je l'ai dit ce matin, on se marie pour toujours. Ah, je te jure, fidélité, pour toujours, ma chérie. Tu parles, après un mois, on change. hommes et femmes. Aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. Mais le Seigneur, il nous a prévenus. Les choses iront de mal en pire. Mais le Seigneur, il va revenir. Car si le Seigneur ne revient pas, même pas les élus seraient sauvés. Le Seigneur, il va venir. Voilà pourquoi cette chose-là, c'est très important. Jésus-Christ, il est venu, il a donné sa vie pour construire, pour bâtir, pour se choisir une épouse. Un peu comme Isaac, lorsqu'il avait envoyé Abraham, il avait envoyé son serviteur dans un pays étranger, pas dans le pays nouveau, Canaan, que le Seigneur lui avait donné, mais dans un pays étranger, pour chercher une épouse pour son fils Isaac. Jésus-Christ, il vient d'un pays étranger. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, les Martiens, ils existent, d'un autre monde. Mais il y a eu quelqu'un qui venait d'un autre monde. Il est venu ici-bas, il nous a parlé de Dieu, il nous a montré ce qu'est Dieu, et on ne l'a pas cru, on l'a crucifié. Parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas de la terre, je viens de là-haut. C'était un martien pour les hommes. Et des gens crient aujourd'hui, montre-toi, montre-nous un miracle, montre-nous un signe. Ça ne sert à rien les miracles. Regardez Jésus, il a fait des miracles, et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il était sur la croix, montre-nous un signe, descends de la croix et nous allons croire en toi. Mais Jésus, il a dit que heureux serez-vous si vous croyez sans avoir vu. Et c'est ce qu'il a fait Jésus. Il s'est choisi une épouse. Il a combattu pour elle. Il s'est battu pour chacun de nous. Car il y avait une loi qui nous condamnait. Une loi que nous aurions pu jamais réaliser. Mais Jésus, il est venu et il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Il a gagné cette épouse, la fille de Caleb. Il a été donné un mariage à celui qui a gagné. Et Jésus-Christ a gagné. Et c'est Dieu qui nous a donné à Jésus-Christ. Parce que nous avons fait confiance à Dieu. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Caleb, il s'est combattu, il a battu, il a vaincu pour avoir une épouse. Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, c'est pour avoir son peuple. Son peuple à lui. Et nous faisons partie du peuple de Dieu céleste. Comme j'ai dit ce matin, aucune récompense terrestre pour les chrétiens. Pas de richesses. Pas de bienséance. Comme il a dit les frères, vous serez persécutés au contraire. Tout ce que le Seigneur il nous promet, c'est des bénédictions célestes, un héritage dans le ciel. Peut-être qu'on n'arrive pas à la fin du mois, même le 10 du mois, on n'a plus d'argent, on n'a pas à manger, mais soyons sûrs que le Seigneur est là auprès de nous. Amen. Mais il faut être convaincu de ces choses-là. Il faut croire les promesses de Dieu. Il faut croire les promesses de Dieu. Et le cinquième point, c'est verset 19. Verset 19 qu'il dit, où je suis moi? Juge 15. Josué 15, pardon. On l'a lu, mais je vais vous le relire parce que on voit ici la dot. La dot. Ou la part du chrétien. 15, 19. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est la fille qui s'est tue. Verset 18. Hein? Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Hein? C'est Aksa même qui demande. Il demande à son mari, « Va vers mon père et tu lui demandes un champ. » Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. » Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Ici, on voit les dons qu'il a reçus à Axa. Et Othniel aussi. En chant de l'autre, on dit, c'est suffisant. Non, Axa, il a demandé. Axa, c'est l'épouse. Hein? Dieu, il nous donne le salut. Mais en tant que chrétien, nous pouvons nous approcher de Dieu et demander encore des bénédictions. Hein? Et tout ce qu'il a demandé, il l'a reçu. Demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que c'est qu'il a demandé? Des sources. Pourquoi des sources? Parce qu'ils habitaient en désert. Et vous savez que dans ces endroits-là, une source d'eau, c'est quelque chose de très important. Très important. Hein? Et ici, puisque nous sommes l'épouse de Christ, qui nous a déjà donné le salut, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour qu'il puisse nous donner tout ce dont nous avons besoin. Demandez et vous recevrez. Et c'est ça que le Seigneur, il nous donne. Une source qui nous sont offertes par Dieu. Des sources pour notre vie quotidienne. Le vendredi, on fait des réunions de prière. Pour qui on intercède? Premièrement, pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, pour nos frères et sœurs. Troisièmement, pour nous-mêmes. Car le Seigneur, c'est un Dieu qui écoute les prières de ses enfants. Quelqu'un disait, oui, mais il ne me répond pas. Mais déjà, lorsqu'il nous dit non, c'est déjà une réponse. C'est que nous, on veut toujours entendre, oui, oui, je te donne. Mais lorsqu'il nous dit non, c'est déjà une réponse. Et ici, il lui a donné des sources. Elles sont offertes pour Dieu. Chaque promesse qu'il y a dans la parole, il paraît que quelqu'un il a compté, il y a 36 000 promesses dans la Bible. Voilà pourquoi. De quoi avons-nous peur? La seule chose que nous devons faire, c'est demander. Demander. Il nous est dit des sources. Dans Jean 4, 10, 14, vous connaissez cette histoire de la Samaritaine. Il a dit, donne-moi à boire. Il a dit, comment toi, un juif, me demande à moi à boire? Et le Seigneur lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, demande-lui à boire et il te donnera une source d'eau. Ça, il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Pas un verre d'eau, mais une source entière. Comme il disait David dans les psaumes 23, « Ma coupe déborde. » Ça, c'est la grâce de Dieu. On demande quelque chose, mais notre coupe, notre vie, il déborde de grâce. Et il y a aussi, c'est ce qu'il nous dit dans Apocalypse 7. Regardez ce qu'il dit, Apocalypse 7, 17. 7, verset 17. « Car l'agneau qui est au milieu du trône le pètera et le conduira aux sources des eaux de la vie. » Et Dieu essuiera toute larme des yeux. Il nous conduira, Jésus-Christ, l'agneau, il nous conduira aux sources de la vie. Et ici, Axa, qu'est-ce que c'est qu'il demande? Une source. Et toutes promesses de Dieu sont pour nous. Et Dieu, il ne dit pas, oui, je te le donne. Qu'est-ce que c'est qu'il lui dit, Caleb? Il lui dit, je te donne des sources supérieures et des sources inférieures. Les sources supérieures, c'est quoi? Nous, chrétiens, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, là-haut, dans le ciel, des sources supérieures. Nous avons déjà ces bénédictions. Et les sources inférieures, c'est concernant ici-bas. Chaque besoin qu'on ressent dans notre vie chrétienne, le Seigneur, si nous nous tournons vers lui, il nous les donne. Il nous les donne. Mais il faut le croire, ces choses-là. Voilà pourquoi Caleb, ici, c'est un peu l'image de Dieu. Il a dit, tu me demandes des bénédictions, tu me demandes une source, je te la donne. Je vais être avec toi, je suis avec toi tous les jours, car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne te donne pas une source, mais je te donne des sources supérieures, des sources qui sont dans les cieux, et des sources inférieures qui sont ici-bas sur cette terre. Je suis avec toi. Je te conduirai, je t'enseignerai, je te ferai du bien, j'ai un avenir pour toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et c'est ça dont nous avons besoin, de savoir que notre Dieu, il est là avec nous. Voilà pourquoi c'est dans les psaumes 87, verset 7, c'est un verset qu'on connaît, il nous est dit, « Toutes mes sources sont en toi ». Toutes mes sources, ils sont en toi. Tout vient de Dieu. Toute grâce vient de Dieu. Nous avons besoin à boire, tournons-nous vers Dieu. Nous avons besoin de manger, tournons-nous vers le Seigneur. Nous avons besoin d'un travail, ou de n'importe quoi, tournons-nous vers le Seigneur. Ne limitons pas le Seigneur. Car on l'a vu vendredi, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Donc, à chacun de nous, en tant que chrétien, de pouvoir se tourner vers lui et l'écouter ce qu'il dit. Il nous dit une seule chose, demandez et vous recevrez. Amen. Amen.